excusez-moi, on ne fait pas, l'office cette semaine ici. Dans nos offices liturgiques, cette fête a une grande importance parce que c'est le moment quand, quand Marie a dit oui à l'appel d'ange. Oui, il faut que je fasse un peu. Notre Père qui dit aujourd'hui, c'est-à-dire quand Marie a dit oui, c'est le commencement de notre salut. Parce que le Christ, il peut devenir homme par l'accord de Marie. Je laisse Marie-Christine continuer. Et à la fin, comme d'habitude, je vous laisse la liberté de poser des questions. N'importe quelle question que vous voulez mettre, une question sur les icônes, qui soit sur le sujet, vous mettez cette question et moi ou Marie-Christine, on va essayer de vous répondre. Ok?
Donc effectivement, on va parler de l'Annonciation, qui est une fête majeure, comme vient de dire Père Roger, puisque si Marie ne dit pas oui, l'incarnation du Christ n'est pas possible. Donc c'est vraiment ce fiat, ce oui de Marie, qui fait tout ce chemin vers le Christ possible. Donc c'est une icône essentielle, elle fait partie des 12 fêtes, mais elle est essentielle. Est-ce que je parle assez fort ?
Oui.
Parce que sinon, je me mets, tout le monde se met du même côté. Oui, parce que donc on va pousser la table là.
Attention, l'icône. Attends, il y a une porte. Ah, moi je prends l'icône.
Bien.
Oui, je te la
regardez, ça c'est. Voilà, là, c'est mieux que tu veux une chaise. Non, je ne veux pas de chaise, déjà que je suis petite. Donc, cette icône de l'Annonciation, elle a une place importante dans toute la liturgie parce que, si vous savez, on a parlé de l'iconostase qui devrait être ici. Et au milieu, ici, c'est ce qu'on appelle les portes royales. Et sur les portes royales, il y a l'icône de l'Annonciation. Vous entendez là? Prenez des chaises et venez plus sur le bord là. Approchez-vous, sinon je peux pas crier. Il y a encore deux places.
Oui, il y a deux places. Hein.
Donc cette icône de l'Annonciation, elle s'élève, elle nous met en relation avec ce qui s'est passé quand Marie a dit oui. Elle dit oui au Seigneur, elle dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Donc sur l'icône, il y a l'ange Gabriel qui arrive, il vient du monde céleste lui. Il vole souvent, c'est Gabriel, c'est l'archange Gabriel. Très souvent, donc la couleur de Gabriel, elle est verte ou bleue. Mais souvent dans l'Annonciation, il peut être habillé en rouge, parce qu'il est messager. Mais c'est Gabriel. Donc souvent, Michael est rouge, on les reconnaît à leur couleur, parce que Michael est rouge et Gabriel est vert ou bleu. Et des fois, sur l'Annonciation, on va avoir un Gabriel qui est en rouge, parce qu'il annonce. parce qu'il est messager divin. Et puis il y a Marie qui file la laine, le fil du voile du temps, donc c'est toujours un fil rouge, puisque c'est toujours pareil sur l'iconostase, normalement il y a un rideau derrière, et ce rideau est rouge, et donc elle file ce tissu pour le temple. Dans des icônes aussi, j'ai amené, il y a la notion de l'eau, mais c'est très rare, nous en Occident on n'a pas vraiment, ou dans la tradition iconographique, on n'a pas vraiment cette notion de l'eau sur les icônes, mais j'ai amené beaucoup, parce qu'on a beaucoup de modèles. On a trois sortes d'icônes par rapport à l'annonciation. Donc, celle où elle est dans le temple en train de tisser le voile rouge du temple. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, quand il y a le voile rouge comme ça, ça veut dire qu'on est à l'intérieur du temple. Il y a celle où il y a le puits. Je reprends mes textes. Voilà. Donc, celle où il y a un point d'eau, parce que la tradition aussi par rapport à l'eau, c'est très important. Donc on trouve aussi des icônes très anciennes de l'Annonciation avec de l'eau. J'en ai amené ici où on voit l'eau en bas et j'ai une fresque. J'ai une photo d'une fresque que j'ai trouvée, que j'ai photographiée à Nazareth. Et effectivement, il y a aussi de l'eau. Donc la pluie à ce moment-là, elle ne pisse pas, elle est avec l'eau, elle est au puits. Et puis il y en a une autre où elle est avec un livre, mais celle-là, je n'ai pas d'exemple. Et justement, sur ce livre est écrit « L'épouse inépuisée ». Mais là, la tradition, je ne connais pas de représentation de cette icône-là. Alors, donc nous sommes le 25 mars, ça veut dire que nous sommes à 9 mois du 25 décembre. Hein, et Marie, à l'instant même où elle dit oui à l'Esprit Saint, à l'ange qui annonce la nouvelle et à la descente de l'Esprit Saint, à ce moment même, elle conçoit. Et il y a une icône qui est très ancienne que j'ai amenée aussi. Et on la voit, donc c'est encore une autre sorte d'icône. Voilà, celle du Stio, l'annonciation du 12e siècle, où ici, je vais vous faire passer les photos, on voit déjà dans l'annonciation instantanément, c'est pour ça que je dis toujours que l'icône elle est intemporelle, elle est hors du temps. Au moment même où il y a l'annonciation, il y a déjà le Christ dans son sein. Vous pouvez regarder, la faire circuler. La photocopie est très mauvaise, mais je suis très contente de vous la montrer. C'est une icône du musée catalan. Donc c'est la tradition, c'est notre tradition, pas des Roumains, mais des Français, on va dire, des gens de Catalogne, et de trouver une annonciation qui est très différente, du 12e siècle aussi, tout à fait dans une tradition iconographique absolument belle, préservée et symboliquement très forte. Donc voilà une association qu'on peut voir au musée catalan à Barcelone. Je vais circuler. Ici, on a une très très belle icône avec toutes les scènes de la vie. Donc ça s'appelle une icône hagiographique. Hagiographique. Où il y a toute la vie de Marie. Cette icône a la particularité dont on voit de nouveau l'archange qui annonce. Ici, il y a le saint, l'ancien des jours. Et il y a ici la grotte qui figure la nativité déjà sur l'Annonciation. Ça aussi, on le trouve très peu. C'est le seul exemple que je connaisse où on voit la grotte de l'Annonciation ici. Je vais faire circuler aussi. Après, j'ai plein de modèles de différentes écoles, mais bon, tout est à peu près. Voilà, là il est bleu, là il est rouge, là il est blanc, il est bleu, blanc. Vous pouvez faire circuler tout ça. Ici, c'est sur le livre, j'ai passé une photocopie, mais on voit l'eau.
Mais à Jérusalem, dans le lieu, dans l'église de l'Annonciation, il y a une source d'eau.
Tout à fait. Dans cette chapelle-là. Dans cette chapelle qui est toute fresquée, au fond il y a l'Annonciation et il y a un puits, on entend l'eau couler.
Oui, tout à fait.
Alors, donc cet acte de Marie qui dit oui, c'est la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est son acquiescement Le Fils de Dieu est conçu en elle par la puissance de l'Esprit Saint, parce qu'elle dit oui. Et elle dit, comment cela se peut-il? On sait qu'elle n'est pas bonne. Donc elle est vraiment dans l'obéissance. Alors il y a un auteur qui parle du nom de elle et qui fait le parallèle avec le oui de Marie qui rachète toute l'humanité. Alors bien sûr, nous sommes tout à fait. Alors ça j'ai dit, la Vierge prie, la Vierge à la commune de Jésus, le lieu, donc c'est Nazareth, mais il y en a qui disent que c'est pas Nazareth, il y en a qui disent que c'est Jérusalem. De toute façon, il y a le temple terrestre, divin, et le mur de Jérusalem. Sur l'iconographie, il y a presque toujours le mur de Jérusalem de toute façon. Donc qu'on soit Nazareth ou Jérusalem, voilà. Ce qui est sûr, c'est que Marie a été élevée dans ce temple-là aussi. Donc il y a la symbolique de Jérusalem, mais parce que c'est le lieu où elle est élevée. Si vous vous souvenez, quand elle rentre au temple, on n'a pas parlé de la présentation au temple, elle a 3 ans. Et là, elle est à l'âge adulte, donc tout ce temps, elle est au temple. Et ce temple, c'est le temple de Jérusalem. Alors dans certaines icônes aussi, là elle ne l'a pas fait, mais il y a l'arbre de vie. Donc c'est ou une colonne ou un arbre. Donc on voit qu'on est dans le temple, on est à l'intérieur, mais il y a un arbre quand même. C'est tout comme ça représenté dans l'icône. Donc l'arbre de vie, la Genèse à la croix, de la Genèse à la croix. Dans le roi le rouge, j'en ai parlé, l'architecture aussi. Donc de nouveau, cette lumière incréée par l'or. Toutes les lumières. Là, cette icône a pas mal d'or. Je ne sais pas si vous voyez bien tout.
Oui, ça resplendit, ça.
Voilà. Bon, donc là, alors, le messager de Dieu. Les messagers, très souvent, on ne le voit peut-être pas très bien, ils ont une lance, comme ça. Ce n'est pas une lance, c'est un bâton messager emprunté à la tradition des dieux de l'époque. Hein. Donc, on retrouve le messager de Dieu, il a la lance divine. Bon, toute la légèreté, vous la voyez, hein, vous voyez comme presque il vole. Et sur les icônes, quand on voit quelque chose comme ça, où ça flotte comme ça, c'est gonflé. Et ça vole, on dit que c'est gonflé d'Esprit Saint. Donc lui, elle aussi, mais c'est pas pareil. Lui, il y arrive, il arrive vraiment, il touche pas. Il est plein d'espace. Et il lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi, ne crains pas. Alors, la Mère de Dieu, elle est déjà sur un trône. Donc là encore, on est dans l'intemporalité totale, parce qu'elle est choisie de toute éternité, on pourrait dire. Elle est déjà sur le trône, et elle est déjà toute digne, toute déjà... donc voilà, elle va accueillir, elle accueille, elle met sa main, souvent la main comme ça, c'est « je t'entends, je t'écoute, et je dis oui », mais voilà, elle est dans un respect total. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, elle est vraiment accueillante et respectueuse. Et déjà trônante. Alors, on peut parler aussi des 3 étoiles. Bon, là, il y a sa main, mais elle est l'acathiste, vierge et maîtrisée, c'est ça. Elle est dans sa vierge. Les 3 étoiles, c'est la virginité de Marie. Voilà, la paume ouverte en un geste de dialogue exprimant l'attention active dans l'écoute, l'ouverture et la réceptivité, mais l'étonnement aussi. Et donc, elle dit ce fiat, ce oui. Et tout de suite, le Christ est conçu. Donc là, ça arrive à vous. Alors après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la Sainte Trinité, il y a la colombe. L'Esprit Saint, il descend. Alors là, par exemple, sur une, vous avez vu, il y a l'Ancien des Jours, mais là, elle n'y est pas. Il y a la colombe qui représente l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La colombe, j'en ai parlé. Voilà. Au oui de Marie, le Père souffle l'Esprit et le Christ Jésus est conçu et formé. j'ai parlé des portes royales. Lorsque les portes de l'iconostase s'ouvrent, c'est avec cette même force, cette même évidence, que le mystère divin s'ouvre à nous. Donc, on peut parler un petit peu de l'iconostase.
Oui.
Donc, les portes royales au milieu, souvent en bas, il y a les quatre évangélistes.
Oui.
Voilà, ici, une reproduction des portes royales. Bon, là, il n'y a pas les quatre évangélistes. Bon, il y a des personnages, mais souvent, c'est coupé en quatre avec les quatre évangélistes. Mais il y a tout le temps, la même chose. Voilà, ça, c'est essentiel. Voilà un haut de porte royale. Je vais faire circuler. Ça, ça va circuler ?
Oui.
Bon, alors, ça va. Alors, comme je viens de commencer une annonciation, je vous ai amené un début d'icône. Avant qu'elle arrive à ça, je commence comme ça. Donc, c'est un embout de plâtre. Et donc, j'ai préparé le dessin. Je l'ai reporté sur la planche. Et je vais repasser au pigment, au pigment naturel, à la tempéra, donc avec de l'œuf. Voilà, alors je veux bien vous la regarder, vous la toucher, mais soyez précautionnés avec. C'est pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc là, maintenant que ce graphisme, on appelle ça le graphisme posé, je vais poser l'or, parce que l'or, ça se pose en premier. La lumière incréée se pose d'abord, l'icône, en premier. Et puis après, tout doucement, on fait l'ouverture. C'est-à-dire, ce que j'expliquais déjà, l'ouverture, c'est les couleurs les plus foncées, les plus chaudes. Et ensuite, on va vers la lumière. Donc vous voyez, là, il y a un maximum de lumière. Je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire sur l'annonciation. Oui. Si vous avez des questions, je vous écoute.
Alors, est-ce que tu peux parler un peu? Donc, il y a le teint divin, le bleu.
Non. Humain. Il est du côté de Marie.
Ah, voilà. Mm-hmm. Humain. Et pourquoi il est bleu à l'extérieur?
Réponse. Question sans réponse.
D'accord. Je croyais qu'il y a un code de couleur sur le. Sur le temple, il y a deux colons rouges et le bleu
non.
Qui est lié à la divinité.
Non.
Non.
Non, non. On, par principe, l'icône est partagée entre guillemets en deux.
Oui.
D'un côté, il y a Marie, l'humanité.
Oui.
Et d'un autre côté, il y a l'ange et la divinité.
D'accord.
Et la rencontre avec l'Esprit Saint.
D'accord.
Voilà. Mais après,
il n'y a pas le code.
Cette icône, vous l'avez ici dans ce petit livre. On l'a regardée avec des choix de couleurs différents. C'est-à-dire elle est assez très proche de celle-ci.
Oui.
Mais voilà, par exemple, tu vois,
ah,
là, c'est
ouais.
Pas bleu,
ouais.
L'ange est rouge. Donc tu peux faire circuler pour que les gens regardent
ouais.
Les différences ouais. De couleurs. C'est très intéressant. Il y a du sens sur l'icône, mais tout n'est pas signification.
D'accord.
Oui. Sinon, on se remplit la tête de choses et on n'est pas en relation. Et quelque part, si on est trop dans un questionnement intellectuel, quelque chose qui est mal posé,
oui.
Soit par rapport à l'icône aussi,
oui.
qu'est-ce qu'elle inspire, que je disais au début, donc il faut faire attention à cette tendance à l'extériorisation, alors que l'icône, vraiment son chemin et sa vocation, c'est de te ramener à l'intérieur.
Oui.
Mais nous, on est curieux.
Oui, voilà.
Qui c'est qu'il y a des questions?
Alors, Marie a reçu son destin par rapport d'une parole. C'est l'ange Gabriel qui lui a dit, qui lui a transmis le message de Dieu et elle a accepté par la parole. Il y a une interprétation, une relation avec le fait que Dieu appelle le monde par rapport à son parole. Dieu a dit et ça crée la terre, le ciel, etc. Et maintenant, Dieu a dit par son messager et le fait
de dire oui,
oui de dire oui a créé déjà la réalité en fait d'une autre.
Absolument. Et pour je ne crois pas que j'ai le texte là, mais dans cette optique-là, j'ai lu quelques... Je ne sais pas, je ne l'ai pas là, mais je l'ai lu en cherchant des textes pour vous parler de cette icône. L'être humain ne sait pas à quel point l'amour de Dieu peut créer. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment ça, signifie vraiment ça. À quel point, au moment où elle dit oui, il crée en nous quelque chose instantanément. Et cet amour de Dieu, là, effectivement, comme vous venez de dire, on peut le côtoyer, comme quand il a écrit dans la Genèse, il dit qu'il créa le ciel et la terre. De la même manière, cet amour qui crée. De même, quand il dit si votre foi, vous pouvez soulever des montagnes, c'est pareil. Mais nous, on est dans notre impuissance et dans notre peu de foi. Puisqu'on ne crée pas.
Oui, mais parfois Dieu crée à nous aussi absolument, de la réalité si nous écoutons ensemble.
Oui, absolument.
Mais c'est très subtil. C'est très subtil. Très subtil, il faut la saisir. Il faut être très attentif.
Oui, c'est cette écoute intérieure. C'est l'annonciation, c'est le oui. Moi, je ne peux parler
c'est
que
ça.
Qui vous avez dit son prénom, je prie.
Par rapport à la vie.
Je ne connais pas assez pour parler de ça. Mais si vous voulez en parler,
non,
vous
pouvez.
Si. Oui, mais en même temps, si vous savez des choses qui peuvent informer, allez-y.
Non, je ne vais pas travailler. Si vous avez un mot de réponse.
Et non, je sais qu'elles sont sur, c'est sur les portes royales. Marie est royale, elle dit oui, et à partir de là, tout est possible, y compris la victoire.
Ça ouvre.
Elle ouvre, c'est elle qui ouvre.
Et le Christ, par le diable, le prêtre qui porte la parole,
oui.
Et il traverse.
Il passe par les portes royales.
Les portes royales. Et pour nous, fidèles, c'est une annonciation aussi.
Tout à fait.
C'est une annonciation.
C'est le oui. C'est le oui. L'annonciation, c'est le oui du salut. Et c'est vrai que le Christ, il est le Christ, le prêtre qui représente le Christ. Excusez-moi le lapsus. Il passe par les portes royales. Alors que de ce côté, nous avons les portes du diaconat, celui qui aide et prépare le chemin du prêtre. Et de l'autre côté, la proscomédie, là où on prépare l'Eucharistie. Donc, la porte royale, c'est vraiment la porte de l'Annonciation, le oui. Et on peut y penser à chaque fois quand on s'avance recevoir l'Eucharistie, à ce oui que Marie a dit, et qu'on dit oui quand on va recevoir l'Eucharistie, on dit oui. Voilà.
Elle est très jeune. D'ailleurs, ça se voit sur les icônes. Mon grand-père disait que sûrement elle avait 13 ans.
Oui.
La tradition hébraïque, se marier très tôt. Donc.
Tout à fait. Et puis même, il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que en fait, elle rentre au temple à 3 ans. Dans la présentation au temple, elle a 3 ans, elle est toute petite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème parce qu'elle a ses règles. Et quand elle a les règles, elle ne peut plus rester dans le temple. Donc en fait, dès qu'elle a ses règles, elle conçoit. Pardon ? Ah, pardon. Hein, donc voilà, elle ne peut plus rester dans le temple. Je ne sais plus dans quel texte c'est dit, mais c'est dit. Vous avez peut-être entendu ça, mais c'est sûr. Mais elle est très jeune, elle a 13 ans. Absolument. Oui, c'est des couleurs différentes. Voilà. Donc la prochaine petite conférence, petit partage iconographique, ça sera le dimanche 16 de avril. Et nous parlerons de la résurrection. Alors là, j'avais un petit peu envie de vous parler aussi de la fête qui suit, parce que on rentre, ça y est, je ne sais pas si on a le temps, je vais essayer. Ah, j'ai rien pris sur Sainte-Marie l'Égyptienne. En plus, j'adore Sainte-Marie l'Égyptienne.
Oui, la taille d'icône.
Oui, j'en suis en train de me dire. C'est très beau, l'histoire.
Je ne connaissais pas. cette histoire.
Ben si, il l'a raconté là. Mais bon, on va faire. Oui, mais tu vois, là, je ne vais pas parler
de
c'est le fait. Donc, je pourrais parler donc celle dont je pourrais parler, mais je n'ai pas préparé vraiment.
Mm-hmm.
Mais on peut peut-être un petit peu, si vous voulez, en parler quand même. Mm-hmm. Et bien, qu'est-ce que c'est dimanche prochain? C'est la résurrection de Lazare.
Oui,
les rameaux.
Ah oui, les rameaux.
Mais avant, le samedi soir, c'est la résurrection de Lazare.
Oui.
Donc là, on rentre vraiment dans le début de la semaine sainte.
Oui.
Alors, je ne sais pas si on peut en parler un peu. Qu'est-ce que j'ai amené à annoncer? Ça, c'est que l'annonciation. Vous êtes d'accord?
Oui.
Voilà la résurrection de Lazare. Alors, c'est pas une icône des bûcherettes. Bûcherettes, c'est les rameaux. Ça, c'est une autre icône très importante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette icône de le Christ qui rencontre... les femmes, les sœurs de Lazare, voilà, Marie et Marthe,
et ses compagnons.
Et donc, ici aussi, on est vraiment dans la préfiguration de la résurrection,
oui.
Avec la résurrection de Lazare.
Oui.
Et dans les bandelettes, exactement comme quand le Christ s'incarne,
oui.
On retrouve toujours là. Et puis, on rencontre aussi dans la résurrection de Lazare quelque chose qui est très touchant, c'est l'humanité du Christ, parce que dans les textes, il est dit qu'il pleura.
Oui, il
est
c'est
troublé, très fort parce qu'il est très troublé, il a pleuré. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment l'humanité, la divinité dans cette icône-là. Il y a vraiment le Christ qui pleure, qui est humain, et en même temps qui est complètement divin, puisqu'il ressuscite un mort de 4 jours.
Mm-hmm.
Il commence à tuer, on dit. Hein. Je ne sais pas sur laquelle, non, sur celle-là, non, mais en tout cas, il y a une icône qui se pince les nez. Pas celle-là. Voilà. J'avais relevé quelque chose d'intéressant aussi. Voilà une autre, peut-être sur celle-là. Oui, voilà, là, il se pince le nez sur celle-là.
Oui.
Voilà. Vous pouvez le faire.
C'est qui
Marie, Marthe et Marie.
Ah, d'accord.
Mm-hmm. Et lui, là, vous voyez ce qu'il porte, c'est la pierre tombale.
Oui, oui, oui.
Hein? Mais on retrouve toujours cette grotte où il y a la naissance et la résurrection.
Ouais.
Hein, c'est toujours quelque chose iconographiquement qui est très fort. Cette grotte sombre, cette obscurité d'où va naître la lumière, la résurrection. Hein? C'est vraiment très fort dans la nativité. On a la grotte, l'ombre. Et le principe iconographique, c'est vraiment celui-là aussi. C'est vraiment l'ombre vers la lumière. Et on a toujours cette symbolique qui est très forte. Donc rapidement par rapport à la résurrection de Lazare, donc ça y est, on démarre la semaine sainte. Donc elle est vraiment précurseur de cette résurrection de Christ, qui anticipe le triomphe définitif remporté sur la mort à Pâques. De plus, voilà, l'office exploite les larmes et la puissance du Christ pour confesser son humanité et sa divinité véritable. Voilà, mais là, pour le côté double, je ne vois pas vraiment sur les conflits, sur les icônes, mais ce qui est important, c'est entre les rochers, on distingue, non, c'est pas ça. Le premier groupe est constitué de nombreux juifs venus de Béthanie, avec les sœurs de Lazare pour les consoler, et l'autre groupe, c'est sont toujours... non, c'est pas là, et voilà, et le deuxième groupe, c'est de nouveau les sœurs, les mêmes, Marthe et Marie, qui demandent au Christ et qui croient ressusciter le don. D'un côté, il y a les sœurs qui doutent de Jésus, pourquoi tu n'es pas venu,
oui.
Et les mêmes qui croient en lui.
Voilà,
sur la même icône. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Les sœurs pour consoler, se bouchonner, peut-être par un député, voilà.
Et depuis 4 jours,
voilà.
Il commence à se sentir.
Voilà. Et les mêmes femmes qui disent, je crois que tu es le Christ.
Que tu peux tout.
Que tu peux tout. Voilà. Et ça, c'est très touchant. Parce qu'on est vraiment on est vraiment le Christ. Voilà. Donc, on est bien sur cette chose, sur l'icône, qui est vraiment plein d'amour. Voilà pour la résurrection de Lazare. Je crois que je vais pas.
Merci. Merci.
Hein? Encore. Il faut pas vous parler des rameaux quand même. Les rameaux? J'ai cru bien préparer. Elle est là, oui, je l'ai là aussi, les rameaux. Alors, les rameaux avec les enfants qui jettent des branches. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur les rameaux? L'entrée de Jérusalem, l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Là, je n'ai pas préparé. Hein. Non, il y a trop de choses. Là, l'arbre, les apôtres, les tables, il y a ça, je ne sais pas préparé. Donc, on va les garder. Vous connaissez quand même.
Oui, bien sûr.
Alors, des questions? Je ne sais pas quoi.
Si bon.
Les rameaux?
Non, je ne sais pas. L'histoire de Jérusalem. Mais on le connaît, c'est écrit dans la Bible.
C'est que je le raconte.
Oui.
Ce que je dis, c'est écrit, hein?
Oui, c'est écrit dans la Bible.
L'entrée de Jérusalem. Donc, ça, c'est une déduction. Alors, les colombes, pas du tout. Non, il y a plein de choses que je veux dire. Le Christ. Au centre de la composition, en allant en général de gauche à droite, le Christ entre dans sa ville en roi messianique. Il porte le même crucifère et est revêtu de la tunique et du manteau habituel. Il est assis sur l'âne comme sur un trône, les deux jambes du même côté ou de face, ou au contraire, de dos mais se tournant vers le spectateur. Il n'est jamais à califourchon. Il bénit de la main droite, tandis qu'il tient de la gauche le rouleau des écritures. L'âne. De l'âne. L'âne, selon les prophéties, manifeste le caractère humble et pacifique du royaume que Jésus vient établir. Cette modeste monture, déjà utilisée par les rois d'Israël qui ne devaient pas régner comme des autres rois, est cependant blanche de la couleur du triomphe. Bien des artistes n'hésitent pourtant pas à pousser le pittoresque aux dépens de la majesté de la scène, en faisant baisser la tête de l'animal jusqu'à serrer le sol, ou en lui faisant croquer la palme d'un enfant. Ah bon? La palme, il mange... Mais c'est tout.
Oui,
les apôtres, le groupe des apôtres escorte Jésus, souvent ils ne sont pas nommés. Au premier rang, on distingue deux apôtres aux gestes décidés, Pierre et surtout Thomas, reconnaissable à son visage jeune et imberbe, rarement à l'expression de son nom. Thomas ne s'est-il pas exclamé lorsque Jésus avait décidé de retourner en Judée, où on voulait sa mort, pour rendre la vie à Lazare? Allons-y, nous aussi, et nous allons avec lui. L'arbre, parlez de l'arbre tout à l'heure, c'est très, très important. J'ai débordé, Père. Alors j'en suis à l'entrée à Jérusalem.
C'est pas grave.
Donc l'arbre. Entre la colline et la ville se dresse donc un arbre souvent original qui contribue à donner un air de fête à la composition. On reprend tout à l'heure l'histoire de l'arbre, qui est l'arbre de vie. Hein, je parlais tout à l'heure. Dans plusieurs cas, on y distingue un personnage qui semble y être grimpé, plus pour voir que pour couper des palmes, et dont le nom se révèle être Zachée. Donc, on dit que dans l'arbre, c'est Zachée. Sa présence inattendue manifeste une contamination de l'entrée à Jérusalem par l'entrée à Jéricho, ce que raconte Saint Luc. Bon, mais ça, il faudra que je le travaille un peu plus quand même. Ça fait un petit complément pour aujourd'hui. Voilà.
Il faut qu'il lise aussi.
Hein?
Il faut qu'il lise aussi.
Ah oui!
On a deux prières pour les défendre. Si vous voulez rester, on va partager quelque chose ensemble. Ça dure 5 minutes l'office et après on fait un petit agape.
D'accord.
pas annoncé parce que j'ai pas su. On va faire, on va la.
Merci.
Je vous invite maintenant comme ça.
Merci.